Bonjour Barbara.
Bonjour.
Bienvenue dans les locaux du CLEMI. Nous t'accueillons aujourd'hui parce que tu es maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2 et notamment spécialisée dans les pratiques culturelles juvéniles.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu et nous caractériser ce que serait un jeune aujourd'hui, d'hier ou d'aujourd'hui?
Oui, ben c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on veut penser la question des jeunes d'aujourd'hui, c'est aussi intéressant d'aller voir un petit peu dans le passé pour s'apercevoir que ce qui caractérise la jeunesse et pourquoi la jeunesse s'est constituée comme une catégorie sociale, c'est du fait de la massification scolaire et notamment du secondaire. C'est parce que une catégorie, une classe d'âge s'est retrouvée ensemble en classe de manière de plus en plus massive avec les baby boomers, et que en se retrouvant tous les jours, au quotidien, ensemble, en classe, en cours de récréation, eh bien, c'est constitué une culture. Et en parallèle à cette époque-là, dans les années 60, se développaient aussi les industries culturelles de masse. Et donc, en fait, c'est sous ce double effet d'une massification scolaire et du développement des industries culturelles de masse que naît la jeunesse. Et c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas penser la jeunesse sans penser une socialisation par les pairs, une culture commune, et une culture commune qui s'appuie, s'abreuve des industries culturelles, celles d'hier ou celles d'aujourd'hui.
Alors creusons un petit peu la question. On les repère facilement, les pratiques culturelles juvéniles aujourd'hui ?
Ah ben, elles ont quelques caractéristiques que l'on retrouve aussi historiquement. La revendication et la quête d'autonomie culturelle, c'est sans doute ce qui caractérise le plus la jeunesse, autour de pratiques culturelles qui sont celles de se divertir, parce que quand on passe ses journées à l'école, eh bien, à un moment donné, on a envie, on a besoin de relâcher la pression. Et donc, cette quête de divertissement, cette revendication de divertissement, elle est très forte chez les jeunes d'aujourd'hui, mais comme hier. Donc, voilà, face à cette pression scolaire, se divertir. Et effectivement, ce divertissement, il y a aussi une revendication à ce que ce soit à l'abri du regard des adultes, parce qu'il y a cet entre-soi, cette culture qui s'est constituée, et on va chercher à avoir sa propre culture avec ses traits caractéristiques, son langage, ses vêtements, ses modes, ses goûts musicaux. Donc de Johnny Hallyday à soprano aujourd'hui, si peut-être je dis une bêtise, hein, peut-être que ce n'est pas, mais me semble-t-il, soprano, ça fonctionne bien aujourd'hui.
Ou pas mal d'autres encore,
évidemment. Et donc voilà, il y a cette revendication d'avoir une culture qui est propre et qui ne soit pas forcément reconnue ou celle des adultes.
D'accord. Donc je crois qu'on a saisi la construction là, des traits communs, de l'effet tribu, hein, l'effet un petit peu communauté ou communautaire. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair sur le lien, j'allais dire presque organique, entre la jeunesse et le média, ou les médias, ou la sphère médiatique, via peut-être cette construction culturelle? Parce que ça, c'est ce qui nous intéresse beaucoup.
Ouais. Alors c'est vrai que on ne peut pas penser les cultures juvéniles sans penser le lien avec les médias et inversement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'intéresser aux pratiques culturelles, enfin aux pratiques médiatiques et numériques des jeunes, sans voir que ces pratiques médiatiques et numériques sont liées aux cultures juvéniles. Et donc les médias sont d'extraordinaires supports aux cultures juvéniles, aux pratiques culturelles juvéniles. Voilà. Les médias, les outils numériques sont d'extraordinaires supports aux
pratiques culturelles. Et là, on va inclure l'affiliation, par exemple, aux réseaux sociaux,
évidemment,
au fil Twitter, à tout ce qui est...
Alors, le fil Twitter n'est pas une pratique culturelle juvénile massive, ou alors passé un certain âge.
Elle a tendance à le devenir, alors. peut-être pas uniquement Twitter, mais quand même des...
Les réseaux sociaux, voilà, oui, réseaux certains sociaux. Réseaux sociaux. Et en fait, c'est extrêmement variable en fonction des âges. C'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas abordé ça, mais la pratique culturelle à 11 ans, à 15 ans et à 18 ans n'est pas la même. L'usage des réseaux sociaux et des outils numériques n'est pas la même en fonction des âges, mais aussi en fonction du milieu social, aussi en fonction... Mais ce qu'on repère, c'est trois grands pôles d'usage numérique, médiatique, c'est donc se divertir. Donc évidemment, les séries et YouTube sont d'extraordinaires supports au divertissement. Communiquer. Pourquoi communiquer? Bah parce que à cette période de la vie où j'apprends à devenir le copain de, où je m'écarte de la sphère familiale pour apprendre à être avec les autres, à être un individu au sein d'une société de pairs, eh bien, je n'ai de cesse que de chercher à être en contact avec mes copains et à être en lien avec mes copains. Donc, on peut se retrouver au sport, on peut se retrouver dans la rue, on peut se retrouver à la sortie de l'école, partager un temps, mais on cherche aussi à maintenir ce lien via les réseaux sociaux numériques. Donc, les réseaux sociaux numériques...
C'est vital pour la jeunesse.
Ouais, c'est vraiment ce besoin de maintenir le lien, même si on ne se dit rien d'important. C'est juste être là, savoir que l'autre est là et qu'on communique, qu'on est les uns avec les autres.
Donc, se divertir, communiquer, et le troisième?
Et le troisième, c'est s'informer, se documenter, qui prend des formes très variées et qui va se développer de manière importante avec l'âge. D'abord, se documenter ou s'informer, ça prend deux dimensions. Une qui est très scolarocentrée, c'est-à-dire répondre aux injonctions scolaires, faire mes devoirs, voilà, faire des exposés,
etc. Qui veut faire du jeune un bon citoyen.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est dans ce sens qu'eux le vivent. Moi, je parle du point de vue de l'adolescent, et l'adolescent dit bah, « je fais mes devoirs, je n'ai pas le choix ». D'ailleurs, les familles équipent quand elles ne sont pas équipées. Internet est là comme support scolaire. Donc, la recherche documentaire, elle est en réponse à l'injonction scolaire. C'est comme ça qu'ils le vivent. Mais évidemment, il y a aussi toute une part de quête d'information et de recherche d'information qui vient de leur propre goût, qu'ils ne revendiquent pas forcément auprès des autres. On peut être passionné de quelque chose qu'on ne revendiquera jamais dans sa sphère des pairs, des copains, parce qu'on a peur d'être moqué, d'avoir telle ou telle passion pour les phasmes ou je ne sais quoi, mais développer des pratiques, de faire des recherches pour soi à travers le numérique, qui en fait montre là l'autonomisation, le développement des goûts, de l'identité des individus, mais qu'on n'affiche pas forcément socialement.
Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comment tu qualifierais la relation entre la jeunesse et l'intensité de l'information? Est-ce qu'ils sont très informés? Parce qu'eux ont l'air de dire qu'ils ne s'informent pas beaucoup, qu'ils finalement ils ne sont pas très intéressés par tout ça.
Alors, en effet, les travaux montrent très clairement que l'intérêt pour l'information, on le voit dans les enquêtes qu'à partir du lycée. On ne le voit pas avant. Quand des pratiques d'information numérique en particulier. C'est-à-dire que quand on interroge les individus à l'école primaire, autour du cycle 3, CM1, CM2, puis en 5e, 4e, puis au lycée, on voit que l'information n'apparaît dans le discours des pratiques juvéniles qu'au lycée. Avant, ils n'en parlent pas. Sauf ceux qui vont être abonnés depuis très longtemps parce qu'ils vont être particulièrement socialisés à l'information dans leur socialisation familiale.
Et ils ne sont pas très majoritaires,
ceux-là. Et non, ceux-là sont très peu majoritaires. Mais ceux qui ont évidemment, qui auront eu une socialisation à l'information importante, vont dire qu'ils s'informent. Mais c'est extrêmement rare. Et quand ils nous disent qu'ils s'informent, bien souvent, souvent, ils font référence en fait aux pratiques familiales, aux pratiques de, des parents. Et donc, ben, ils vivent ce que font leurs parents. Donc, s'ils s'informent par les JT, ben, ils vont regarder le JT avec leurs parents, etc. Mais on voit bien qu'ils ne possèdent, enfin, ils ne sont pas dépossédés, mais ils ne se sont pas appropriés encore. C'est vraiment la socialisation familiale ou la socialisation scolaire. Mais c'est pas encore approprié. C'est pas une pratique qui, qu'ils investissent par goût particulier.
Est-ce qu'on ça va se développer aller au lycée. Jusqu'à dire que jusqu'aux portes du lycée, aller s'informer, c'est déjà rompre un peu l'entre-soi adolescent.
Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive au collège, on découvre cette socialisation entre pairs, cette sociabilité juvénile, et on se focalise dessus. Donc, c'est construire cette culture juvénile. Et donc, cet entre-soi, c'est se découvrir parmi les autres qui sont comme moi. Et se conformer au goût, apprendre à aimer ça, apprendre à être un jeune, parmi les jeunes. Et c'est effectivement lorsque j'aurai compris qui je suis au sein de ma société des pères que je vais m'ouvrir en fait sur le monde. Et cette ouverture sur le monde, bah oui, du coup, elle va passer par des supports d'information. Mais d'abord, il y a la construction identitaire de soi en tant qu'individu au sein d'une classe de pairs d'âge, de même âge, au sein d'une classe d'âge. Et quand je me suis construit en tant qu'individu, eh bien, ok, je vais pouvoir m'ouvrir sur le monde. Mais laissez-moi d'abord peut-être me construire en tant qu'individu, puis je m'ouvrirai sur le monde en tant que citoyen. Enfin, je ne sais pas, je dis
le
ça, mais...
Le lycée, c'est un peu le début de l'arrachement à la jeunesse, c'est ça ?
Alors, de l'arrachement, pas à la jeunesse, à la tyrannie de la majorité, pas à la jeunesse, parce que la jeunesse, elle peut durer jusqu'à 35 ans. Mais il y a des âges de la jeunesse.
Alors, qu'est-ce qui met fin à la jeunesse, tiens ?
Alors, bah, ce qu'on peut dire qui met fin à la jeunesse, c'est l'institutionnalisation de la vie de famille. C'est une quantité de variables qui vont s'ajouter, donc avoir finalement des contraintes de plus en plus importantes. Donc, on peut essayer de prolonger un maximum l'âge de la jeunesse. Ça veut dire aussi ne pas subir de contraintes.
Des rituels sociaux qui vont remplacer les rituels un peu imposés par l'école ?
Oui, alors c'est sûr que avoir un travail, avoir des responsabilités professionnelles, avoir une famille, avoir des responsabilités familiales, bah, va faire, et si on cumule les deux, eh bah, oui, il y a des chances que là, on quitte petit à petit la jeunesse, mais en même temps, on voit bien comment aujourd'hui, même les adultes, bon là, on est hors sujet, cherchent à investir dans leur temps libre aussi des espaces de vrai temps libre. Finalement, la jeunesse, est-ce que c'est pas le temps libre ? Enfin, bon.
Voilà. Ben merci beaucoup Barbara. On a beaucoup de choses à réécouter là, on a beaucoup d'éléments de réflexion, ouais. Et c'était extrêmement éclairant, merci beaucoup.